Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Nathan.
Salut.
Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. Je me suis passionné par ton univers là ces derniers jours. J'ai préparé un million de questions à te poser parce que bah, je me suis reconnu un petit peu dans la description que tu faisais de ton enfance. Mais avant de commencer d'attaquer un petit peu dans le vif du sujet, vu qu'on est dans une période un petit peu spéciale qui est la période du confinement, je voulais savoir comment tu allais et si tu étais en sécurité en ce moment.
Alors oui, moi je suis super content aussi de faire ça parce que ben dans cette période de confinement, c'est assez propice finalement à un peu la réflexion et puis on peut discuter de loin quand même. Donc moi je vais bien. J'ai eu le virus il y a 3 semaines. J'ai perdu le goût et l'odorat. C'est en train de revenir tout doucement.
D'accord.
Voilà, donc mais à part ça, je vais bien. Il y a ma copine qui a eu le virus elle aussi. Donc elle en plus elle est enceinte, mais on n'a pas d'inquiétude particulière parce que On va bien, voilà. On est quand même, on a la chance de vivre dans un village en montagne et où le confinement est plutôt agréable.
D'accord, ok. Ah, c'est fou ça. Et vous, toi, t'as été du coup un porteur avec les symptômes déclarés et des grosses fièvres et de la toux.
Alors moi, j'ai eu comme symptôme un gros coup de mou pendant plusieurs jours et après une perte de goût, mais j'ai même pas capté que c'était ça. Parce que le jour, on va dire, du pic de la maladie, j'étais en train de traverser le massif de Bédon en ski de rando et j'ai fait 4200 mètres de dénivelé à la journée, le jour où j'étais le plus mal, quoi. Donc, comme quoi, ça agit vraiment différemment sur toutes les personnes et ça m'a pas empêché de faire quelque chose, mais j'ai quand même senti que j'étais très faible ce jour-là, quoi. Donc, et je l'ai analysé après, en fait, c'est après que dans les infos, ils ont parlé de la perte de goût. Et donc, je n'ai pas été testé, hein, mais c'est 90% sûr que j'ai eu le virus. Donc, ce qui est pas plus mal maintenant parce que je suis immunisé. Et que normalement je suis plus contagieux, mais bon voilà, on a eu quelques petits moments de stress, surtout parce que ma copine est enceinte, mais à part ça,
ouais, bien sûr. Et ça va, elle tout va bien du coup.
Oui, elle tout va bien. Je l'ai forcément contaminée. Elle l'a eu après. Elle est passée par des phases de grosse fatigue, mais pas de température. Ouais. Le plus important c'était ça. Donc c'était un jour ça allait, un jour grosse fatigue, tout et tout ça, ouais. Et puis après un jour ça allait. Et là, elle est sortie de ça, donc je pense qu'on est un peu guéris tous les deux. On va voir comment ça se passe pour la suite, mais on est plutôt content.
D'accord, génial. Bon, juste avant de commencer, t'as dit un petit mot qui m'a interpellé. T'as dit qu'elle était enceinte. Quand est-ce qu'elle termine ? Parce que moi, je suis papa depuis 2 semaines et demie là. Okay. Ça m'intéresse. Je suis un peu curieux.
Et ben donc le terme c'est le 11 septembre, c'est une date un peu pas anodine on va dire, mais oui, le terme c'est le 11 septembre et comme je dis, ça me fait, enfin je suis super content, hein, on voulait depuis un moment et ça me fait comme tous les projets cette année sont remis en question, chamboulés, annulés, enfin plus rien n'est comme prévu, ouais. Au moins je suis sûr que celui-là il viendra bien à date prévue et je le vois grandir, ça fait plaisir.
Ok, d'accord. Bon, bah, je suis rassuré parce que là, nous, en fait, mon fils est né le jour du confinement, okay. Donc le 17 mars. Et si tu veux, j'ai été confiné dans la maternité et du coup, bah, c'était très bien parce que j'ai pu être là à 100% et on était vraiment en paix, quoi. Il y avait personne pour venir nous voir. C'était un climat un peu particulier avec les sages-femmes et le corps médical. Mais là, j'ai une autre copine qui doit accoucher dans très peu de temps et les hommes sont plus autorisés à rentrer dans la maternité. Donc ça risque, voilà, je m'inquiétais un petit peu pour ça et je te souhaitais pas que ça soit là dans les semaines à venir parce que c'est,
ouais, non, c'est bien,
c'est
pour ça.
Un moment un peu dur pour accueillir. Ok.
Ouais, bon, je sais que j'ai d'autres copains aussi pareil, hein, qui peuvent même pas aller voir leur petit alors qu'ils viennent de naître. C'est vrai que c'est assez compliqué. Le pire c'est quand les deux parents ont le virus, ils peuvent même pas voir leur enfant après la naissance. Enfin bref, non, nous on n'est pas dans ce cas-là. C'est en septembre, ça sera tout fini. Il arrivera après la tempête. Voilà.
Voilà, ok, c'est ce qu'il faut se dire. Faut voir le bon côté des choses. Bon, écoute, on aura un petit peu digressé pour cette intro de podcast, mais c'est ça aussi qui fait la magie des rencontres. Comme je te le disais juste avant qu'on commence, la question traditionnelle sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Donc moi, mon premier souvenir, on va dire qui m'a marqué, en plus que j'ai un peu revécu par des photos. C'est les premières sorties en rando avec ma maman. Donc quand on avait mon petit frère devait avoir 4 ans et moi 6 ans et on a fait un sommet plusieurs fois qui s'appelle le Petit Bargy qui est au-dessus de la maison et donc c'est un souvenir qui est assez ancré parce que il a été remémoré par des photos, il y a des photos avec des bouquetins et il y a un endroit dans cette rando avec un trou, un gouffre en fait, sur lequel on passe au-dessus sur un chemin et sur lequel il faut pas tomber. Et en fait, ma mère, elle nous emmenait là alors qu'on était vraiment tout petits, hein, parce que chez mes parents, il y a encore la chaussure de rando de mon petit frère et c'est une chaussure de tout petit pied, quoi, une chaussure de bébé quasiment. Donc elle nous emmenait, c'est une rando qui fait quand même 1000 mètres de dénivelé et on avait, enfin c'est un souvenir qui est un peu magnifique parce que dans mon adolescence, j'ai pas forcément, en tout cas le début de mon adolescence, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué à la montagne, mais je trouvais ça drôle d'être revenu à ce monde de la montagne plus tard, alors que je l'avais découvert avec ma mère quand j'étais petit. Et quand on était petit, elle nous a un petit peu poussé à y aller, on n'avait pas forcément envie au début. Et puis quand on était ado, on voulait plus y aller, donc elle nous laissait pas y aller. Puis finalement, on y retournait nous-mêmes plus tard.
Ouais, mais c'est marrant ce que tu racontes, parce que moi aussi j'ai une maman montagnarde avec qui j'ai fait beaucoup beaucoup de rando, et moi aussi je traînais fortement les pieds quand j'étais petit pour me faire du dénivelé. Maintenant c'est quelque chose que tu rattrapes, tu refais des randos avec ta maman malgré le temps qui passe.
Alors oui, j'en ai refait un paquet après. Maintenant le souci c'est qu'elle traîne un peu derrière, c'est un peu l'inverse. on a un rythme. Enfin, moi je fais quasiment tous les jours donc l'hiver du ski de rando, je fais à peu près 1000 mètres de dénivelé par jour. Et ah ouais. Le matin avant. Bon après on va enchaîner sur une future question. Je crois que qu'est-ce qu'est une journée parfaite, mais moi c'est vrai que j'aime bien faire un tour le matin. Donc l'été ça va être avec le parapente dans le dos. Et redescendre vite à la maison pour enchaîner une journée de travail un peu sur l'ordi. Et l'hiver, bah, c'est pareil avec les skis de rando. Et du coup, c'est vrai que bah, cet hiver, notamment, j'ai fait énormément de rando. Et bah, quand on en fait beaucoup, bah, forcément, on a un rythme qui va un peu vite après. Et donc, ma mère, maintenant, elle me dit non, attends, moi, j'y vais pas avec toi. Je veux pas te ralentir, mais je suis quand même capable de dire des fois, attends, non, on y va ensemble. On y va cool, on se promène et on a le temps de discuter, de regarder. Donc, oui, on s'est bien rattrapé. Hein. On a fait un paquet de tours de rando, que ça soit pour aller marcher, aller aux champignons. Là, on va mourir en ce moment ensemble. C'est l'époque des morilles. Enfin, on y va ensemble, mais loin, parce qu'on n'est pas confinés au même endroit. Mais...
Ouais. Mmh. Ok. Ouais, c'est génial. Et du coup, t'as mentionné la journée parfaite. Ça serait d'aller chercher de la morille, la journée parfaite.
Oui, ça peut en faire partie. La journée parfaite, elle évolue hein, pour moi sur la saison. C'est vrai que j'ai la chance de faire donc un métier. Donc je fais de la slackline, c'est mon travail, et une grande partie de mon travail c'est préparer les projets, toutes sortes de projets hein, qui sont très différents, et je fais ça depuis l'ordinateur, depuis chez moi, et comme j'habite en montagne, je suis collé contre les montagnes, je suis dans une vallée, une petite vallée perdue qui s'appelle le village du reposoir dans les Aravis, et ça me permet, en fait pour moi la une journée qui commence bien, c'est une journée avec un coup de sport le matin. Et que ce soit l'hiver ou l'été, l'hiver ça va être le ski, donc en fait ça me permet de m'échapper rapidement, de partir assez tôt, en général entre 6h et 8h. Je fais on va dire une heure de montée assez fort, là ça me permet de me dépenser et d'avoir un peu ma dose de sport quotidien, et puis après je redescends soit en ski, soit en parapente, et là ça me fait ma dose de gros plaisir quotidien aussi, parce que bah, une fois que je me suis bien dépensé, que je suis arrivé en haut, ben, il n'y a plus qu'à faire la descente et à se faire plaisir, soit sur les skis, soit sous le parapente. Bon, aujourd'hui, avec le confinement, je fais ni l'un ni l'autre et je respecte bien ça. Donc, je me rattrape autrement. J'ai une slackline dans le jardin et puis j'y passe des heures toute la journée pour compenser un peu ça.
Ok, d'accord. C'est marrant. Comme je vois, là, la semaine dernière, j'étais en train d'interviewer Fanny Guibert qui fait de l'escalade, et pareil, elle avait construit un petit module dans son jardin et elle y passait des heures. Pour vaincre un petit peu la tristesse du confinement. En tout cas, c'est vrai qu'on tes journées ont l'air bien remplies en pleine nature, et est-ce que tu te rendais, enfin quand tu étais plus jeune, on reparlera un petit peu juste après ta découverte de la slackline, mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais vraiment cette envie de passer beaucoup de temps dehors, d'avoir des journées aussi remplies et aussi proches de la nature?
Alors en fait, quand j'étais jeune, j'étais on va dire un petit peu, dès que je pouvais, j'étais dehors, mais j'étais quand même comme tous les jeunes hein, un peu cadré dans un système scolaire. Donc j'avais pas forcément de difficultés, on va dire, pour suivre à l'école, mais je passais quand même énormément de temps virtuellement dehors, en fait. En gros, j'étais toujours les yeux par la fenêtre. Hein. C'est un truc que j'ai jamais réussi à... Enfin, quand j'avais une fenêtre avec un bout de forêt devant moi, j'ai pu regarder des heures et des heures ce qui se passait dehors par la fenêtre, que ce soit de l'école, du collège ou plus tard de l'UT. Et j'avais besoin de m'échapper comme ça. Et donc, je savais que je n'étais pas fait pour passer mes journées enfermées assis, on va dire. J'avais besoin de m'échapper. Ouais. Mais ça, c'était un souci, parce que quand on est échappé par la fenêtre, on n'est pas forcément en train de suivre le cours. Et là, on va, du coup, ça lie un petit peu la suite, parce que moi, j'ai commencé la slackline. C'était un moyen pour moi de captiver mon attention sur une chose, et j'en avais vraiment besoin. En fait, en gros, pour raccourcir un peu, c'est un peu comme de la méditation. Et le fait de toujours regarder par la fenêtre à l'école, forcément c'était aussi un manque d'attention, j'étais pas attentif Parce que si, maintenant, en l'analysant, si j'avais pu être plus attentif et être plus à fond dans ce que, dans les cours qu'il y avait sur le tableau et qui me passionnaient aussi quelque part, à certains moments, je pense que ça aurait pas été plus mal non plus. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance finalement de filer vers un milieu qui me permet d'être toujours dehors et d'avoir vu des belles, et de voir des belles choses. Mais, ouais. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas forcément l'occasion de le faire autant. Bien que dès que je pouvais, quand j'étais ado, j'ai une époque où je courais beaucoup et tous les soirs ou tous les jours, enfin les jours libres, je courais. Et puis après, j'ai découvert la slackline et puis maintenant, suite à ça, c'était pendant quelques années, ça a été dès que je pouvais, j'étais sur une sangle le soir après l'école, le week-end, dès que j'avais du temps libre, j'étais sur un bout de sangle.
Ok, c'est passionnant. Ton histoire, elle me parle beaucoup. Si je comprends bien, t'étais un garçon un peu rêveur qui essayait de s'évader et qui écoutait pas forcément à l'école. Et tu découvres la slackline et en quelques années, tu deviens, je pense, un des hommes avec ayant la capacité de concentration la plus élevée au monde. Parce que bon, on va en reparler, mais c'est un énorme effort de concentration. Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres du coup ce sport? Est-ce que tu deviens tout de suite accro? Est-ce que tu te forces un peu à pratiquer? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premières années de pratique?
Alors la découverte de la slackline pour moi c'était donc en 2011. Donc à l'époque j'avais 17 ans.
17 ans, ouais.
C'est ça, j'étais au lycée à l'époque. Ouais, c'est ça, au lycée. Et donc c'est un copain qui me montre ça, un copain de mon frère en fait. Donc mon frère est... Je faisais déjà l'escalade à l'époque, maintenant il est bientôt guide de haute montagne. Et donc ce copain de mon frère me fait découvrir la slackline. J'étais un peu blessé à l'époque, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais mal à la cheville. Et donc j'avais vu, mais sans, bon, j'ai dit tiens, c'est sympa ce truc-là, je connais pas, j'avais pas pu essayer. Et puis pendant l'été, donc en 2011, je m'ennuyais, et là j'ai pris une sangle dans le garage chez mes parents, un bout de sangle qu'on utilise pour sangler du bois ou un cliquet de camion. Et j'ai mis ça derrière chez moi, puis j'ai dit tiens, je vais réessayer ça. Et dès les premiers pas, la première après-midi à essayer, là, je suis tombé complètement dedans. En fait, je suis tombé entre guillemets, enfin, ça m'a plu quoi. Alors, je l'ai pas analysé au début, je savais pas pourquoi ça me plaisait, mais en tout cas, j'ai réussi à faire quelques pas, puis à faire une petite traversée. Et quand j'avais fait ma petite traversée de 4-5 mètres à l'époque, c'était un engin agricole et un bout d'arbre derrière chez mes parents, et ben j'ai augmenté un peu la longueur et depuis ce jour-là, ben on va dire que j'ai vraiment passé des heures là-dessus et donc en y réfléchissant un peu plus tard, en l'analysant, j'ai compris que c'était que j'avais trouvé enfin quelque chose qui me permettait d'être concentré très fortement sur quelque chose qui mettait en œuvre en fait tout mon corps en entier. Quand on marche en fait sur une sangle, c'est quelque chose qui au début est très difficile. C'est faut vraiment un peu réapprendre à marcher. C'est marcher sur quelque chose de souple qui est difficile à dompter. Et donc tout le corps est complètement pris là-dedans et ça apporte des moments en fait où j'étais un peu en apesanteur quoi, juste à marcher là-dessus et en pensant à rien d'autre. Et quand j'avais réussi à faire une petite traversée de 10 mètres qui devenait facile, et ben il fallait que j'augmente un peu la longueur pour que ça redevienne difficile pour retrouver ce haut niveau de concentration. Et petit à petit, j'ai allongé les longueurs comme ça jusqu'à finalement faire des longueurs que personne n'avait jamais traversées et à faire des records en fait. C'est comme ça que je me suis pris à faire des premiers records de distance.
Ok, d'accord. Et moi, je suis assez subjugué par effectivement cette transition un peu. Je me reconnais pas forcément parce que moi, j'avais pas forcément des troubles. Enfin, si j'avais clairement des troubles de la concentration, mais qui étaient plus liés à l'hyperactivité. Moi, j'avais énormément de mal à rester plusieurs minutes assis sur une chaise. Même là, tu vois, je te parle, je suis assis derrière mon bureau, mais je sais que quand on va aller raccrocher, je vais aller mettre mes baskets et aller courir. Est-ce que tu penses que c'est le fait que ça mêle à la fois l'équilibre du corps et un équilibre psychologique, est-ce que tu penses que c'est le combo des deux qui t'a vraiment rendu accro? Ou est-ce que là aujourd'hui, si demain t'allais sur une discipline purement mentale, est-ce que tu t'épanouirais autant dedans, tu penses? Je sais pas si t'as essayé d'ailleurs.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, ce que tu décris chez toi, l'hyperactivité, je pense pas que j'y sois sujet, on va dire. Je pense que j'ai un côté un peu hyperactif parce que je fais pas mal de choses, mais je pense que je suis aussi capable de me poser et de pouvoir rien faire pendant une longue période. Contrairement, par exemple, à mon frère qui lui est un vrai hyperactif, qui se fait des journées de fou à emmener des clients en montagne, le soir à aller grimper, enfin à faire des trucs jusqu'à l'épuisement total, et qui là, bah, d'ailleurs, dans cette période de confinement, a vraiment du mal à gérer ça, même s'il arrive pas trop mal. Mais voilà, et donc moi, je pense que je pourrais éventuellement retrouver ça dans des pratiques complètement qui soient juste sur la partie mentale. Un truc tout bête, hein, mais je pense que beaucoup de jeunes l'ont vécu et sont tous les gens, en fait, les gamers, quand tu joues à un jeu vidéo qui te capte, qui demande un haut niveau d'attention. Moi, à l'époque, je jouais à un jeu qui était un peu connu, ça s'appelle Counter-Strike, là, on tirait sur des terroristes, quoi. Un truc un peu
bien
bête.
Sûr.
Mais moi, je pense que je retrouvais un peu les mêmes sensations, en tout cas, au niveau cognitif, peut-être au niveau du cerveau,
ouais,
qu'en marchant sur une sangle. Mais c'est sûr que derrière, le développement, bah, au niveau du corps, c'est-à-dire, ça apporte rien d'être voûté sur un ordinateur et de dégommer des terroristes. C'est pas très enrichissant. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir trouvé quelque chose qui mêlait les deux, je pense que ça a forcément joué. En plus, quand on est en équilibre sur une sangle, on va travailler les muscles profonds, la posture, et c'est des choses qui jouent concrètement et réellement sur l'attitude après dans la vie, en fait. Quand moi, je suis quelqu'un qui est très grand, je fais quasiment 2 mètres. Et on a tous, beaucoup de grands ont un peu ce souci là, on a tendance à se voûter, à vouloir se mettre plus petit, à vouloir prendre moins de place parce qu'on sent qu'on a un grand corps, qu'on n'arrive pas trop à gérer. Et le fait
il y a peut-être un peu moins de coordination aussi des fois chez certaines grandes personnes aussi.
Oui, c'est ça, voilà, c'est un peu ça, on a c'est que voilà, le fait d'assumer son corps quand on est très grand et fin, c'est pas forcément évident au début. Et donc là, le fait de marcher sur une tente, ça m'a permis aussi de mourir simplement, hein, de me tenir droit, d'assumer en fait qui j'étais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi plu. Après, dans ce milieu-là, j'ai trouvé de la reconnaissance. Quand on trouve de la reconnaissance, forcément, on évolue, on a envie de continuer. Il y a tout un cercle vertueux, en fait, un peu, qui s'est mis en place. Mais c'est sûr que les premiers pas sont toujours difficile, on a des. Enfin, il faut toujours amorcer cette chose-là, et moi j'ai eu la chance de l'amorcer par le biais de la passion. Je pense que beaucoup de gens qui vont au bout de ces choses-là et qui trouvent, enfin qui arrivent vraiment à. Parce que quoi qu'on fasse, n'importe quoi, hein, dans la vie, il y a un moment où on va être nul parce qu'on découvre et on ne sait pas faire. Et quand on est passionné, on a la chance de ne pas avoir à se forcer pour passer ce moment-là. Par exemple, moi, si aujourd'hui je devais commencer quelque chose qui me plaît pas du tout a priori, on va dire, je sais pas, faudrait trouver, je sais pas, comme à la limite apprendre la guitare par exemple, j'adorerais le faire, mais par contre j'ai aucune passion pour me forcer à faire ça tous les jours. Il y a des gens qui vont être passionnés par ça et qui vont passer par dessus. Moi, j'ai la chance avec la slackline d'avoir été tellement passionné par ça que finalement c'était pas du tout un effort que de devoir réessayer tomber, faire ça dans la neige par -5 degrés. Enfin voilà, j'ai eu la chance. En fait, c'est vraiment grâce à la passion que je me suis éclaté là-dessus, on va dire.
Ok, mais écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Notamment, ça me fait penser à un autre épisode que j'ai fait avec Aurélie Muller. Je ne sais pas si tu vois qui est cette nageuse. Elle a été plusieurs fois championne du monde sur 10 km. Elle nage avec Philippe Lucas, l'entraîneur très connu de natation. Et ce qui lui est arrivé cette année, c'est qu'elle a loupé sa place au JO. Et du coup, au lieu de se présenter sur 10 km, elle s'est présentée sur 1500 mètres. Et finalement, elle explique que c'est donc 10 km, c'est en eau libre, c'est dans des lacs, dans des mers, dans des rivière, et 1500 mètres c'est en bassin, donc c'est, elle dit que c'est à deux disciplines qui n'ont rien à voir. Et en fait, on a parlé de ça, en fait, le fait de devenir débutant, et notamment quand tu as été championne du monde dans une discipline, devenir débutant, à quel point c'était difficile pour elle. Donc je vois tout à fait de quoi tu parles, et je vois tout à fait un peu le plaisir un peu innocent de l'enfant qui a envie de progresser et qui se rend même pas compte, en fait, finalement qu'il est pas très bon au début, parce que ça ça lui plaît. Moi, je voulais juste te poser, revenir peut-être un tout petit peu sur la slackline en général. Tu t'as dit que tu avais commencé en 2011. C'est quoi à ce moment-là, c'est quoi le panorama de la slackline? Parce que tu fais, bon, qu'on se le dise, tu as énormément démocratisé la slackline en France. Tu t'es pas mal médiatisé. Moi, j'ai vu, j'habite juste à côté du Bois de Vincennes à Paris, et j'ai vu il y a 4-5 ans le nombre de lignes poussées un peu partout. Mais en 2011, quel était un peu le paysage mondial? Est-ce qu'il y avait des gens qui pratiquaient ça sérieusement? Est-ce que c'était déjà un peu médiatisé? Est-ce qu'il y avait d'autres sportifs qui t'inspiraient déjà à l'époque?
Alors, en fait, en 2011, la slackline, c'était hyper confidentiel. C'était le début de l'ouverture, en fait. La slackline, ça a été inventé dans les années 80 par des grimpeurs au Yosemite. Donc, en fait, ça vient du milieu de l'escalade. Et c'est resté dans le milieu de l'escalade jusqu'en 2010, on va dire. C'est les grimpeurs qui faisaient ça à la base, les jours de mauvais temps ou alors au pied des voies. Même on voit des vidéos de Patrick Edlinger qui marchait sur une corde. C'est ça, en fait. C'est les gars qui avaient besoin d'entraîner leur proprioception. Donc c'est la conscience du corps dans l'espace. Les grimpeurs, c'est hyper important pour eux, la façon dont ils se positionnent. Et le fait de marcher en équipe sur une chaîne, une sangle ou tout ce qu'ils trouvaient, ça leur permettait aussi de travailler complètement différemment leur corps, parce que ils étaient plus dans la force, dans les bras, ils travaillaient que avec leurs jambes, et dans des moments un peu d'apaisement. Edlinger, il en parle bien de cette pratique là donc c'est resté dans ce milieu là jusqu'en 2010. Et à partir de 2005-2010, ça s'est un peu développé aux États-Unis. Il y a un gars qui s'appelle Andy Lewis qui est un peu le papa de la slackline actuelle, qui est un peu une tête brûlée, qui fait beaucoup de base jump maintenant, qui a lancé un peu le truc, et c'est revenu un peu en Europe. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là où Andy Lewis était venu faire une démonstration à un salon qui s'appelle l'ISPO à Munich. Et là, les Européens se sont dit, oh, y a un truc là, ce mec-là, ce qu'il fait, c'est pas anodin, y a vraiment quelque chose. Et eux, du côté business, ils ont dit, là, y a un truc à faire, il y a une pratique qui va peut-être émerger, il y a quelque chose, quoi. Et donc, il y a plusieurs marques qui sont créées en Europe. Il y avait déjà une marque en France depuis 2005, un Français qui avait ramené ça, qui s'appelait Damien Mercier, parce qu'il est décédé depuis, qui a ramené ça en France donc en 2005. Mais c'était tout petit. Moi, donc, quand j'ai commencé en 2011, les gars qui en faisaient parler et qui commençaient à en faire parler énormément, c'était les Flying Frenchies, donc Julien Milo, Tancred Mellet, qui, avec Seb Montaz, avait fait un film qui s'appelait I Believe I Can Fly, où ils allaient faire de la highline dans les fjords en Norvège. Et c'est ce film-là qui est un peu le début de la highline médiatisée en France.
Ok, d'accord. Et donc toi, t'arrives pile poil à ce moment-là, et est-ce que tu les regardais beaucoup, et est-ce que tu les as découverts un petit peu plus tard finalement? Et
alors, moi, en fait, quand je commence la slackline, donc en 2011, je commence par hasard, donc avec ce copain qui me montre ça, qui faisait l'escalade, et je savais même pas qu'on pouvait en faire dans le vide. Du coup, je commence à en faire un peu, puis je vais voir sur internet slackline, je vois qu'il y a une pratique dans le vide qui s'appelle la highline, qui a été démocratisée il y a pas très longtemps, mais c'est vraiment un tout petit milieu. Et en fait, j'ai la chance dès l'automne 2011 de rencontrer donc Julien Milo, qui était des Flying Frenchies, qui faisait un tour de France un peu de la slackline pour aller faire découvrir la highline dans différentes villes de France par le biais d'une marque qui s'appelait Slack FR, qui s'est arrêtée il y a pas très longtemps. Et donc là, je rencontre, j'ai la chance, en fait, après 4 mois de pratique à fond, de tomber directement sur le mec qui est le meilleur en France, qui a amené ça, qui pour moi à l'époque, Julien, maintenant c'est un super copain, mais à l'époque c'était le gars que je voyais en vidéo sur YouTube, qui avait fait le film I Believe I Can Fly, qui avait un super discours. Et donc c'était un peu à l'époque, c'était un peu un gars que j'idolâtrais un peu, et j'ai la chance de le rencontrer, de pouvoir faire ma première highline avec lui, enfin pas vraiment avec lui, parce qu'il s'est blessé en était à Grenoble. Moi, je vais transiter indirectement sur mon premier souvenir de highline. Il y avait un rassemblement donc à Grenoble, on a pu essayer donc le samedi, le premier jour au ras du sol, et même à l'époque ils avaient installé une ligne de 250 mètres de long. C'était le record du monde, je crois, si ça avait été traversé. Après, c'était une très grande, très longue ligne le parc de l'île d'Amour à Grenoble. Et le lendemain, on allait au rocher des Trois Pucelles. C'est un rocher, c'est au-dessus de Grenoble, vers Saint-Nizier, là où il y a une rampe de saut à ski qui était là pour les JO à l'époque d'Albertville. Et je fais ma première highline entre deux aiguilles avec donc tout un groupe de motivés là qui était composé à l'époque de, il y avait Théo Sanson, Xavier Callol, des gars qui étaient les premiers highliners de France en fait. Hein, et là, j'ai la chance d'essayer pour la première fois dans le vide. Et c'est mon plus mauvais souvenir de.
C'est vrai. Tu peux nous le raconter.
Donc ouais, c'était je me disais bon bah voilà, ce que je ferai du sol depuis 4 mois, je suis à fond là-dedans. J'ai enfin la chance de pouvoir essayer dans le vide, je suis avec les mecs, les seuls mecs qui font ça en France à l'époque. C'est
j'ai la pression là.
j'ai la pression, mais en même temps, je me dis j'ai trop de la chance d'être là. Et là, je me retrouve sur ces aiguilles sur les pics des Trois Pucelles, ça fait des barres rocheuses assez fines en calcaire. Et une ligne qui est très courte, hein, qui doit faire 8 mètres de long. Et j'essaie de me lever dessus et j'ai pas la bonne technique, en fait, pour me lever comme il faut. Et du coup, j'arrive même pas à me lever parce que je sais vraiment pas gérer le départ assis. Je me retrouve en dessous, je prends une grosse chute dans le vide et je me retrouve pendu à ma corde qui me retient à la highline. Et là, ça tourne dans tous les sens. Je vois tout le vide, je vois Grenoble, les rochers. Enfin, c'est vraiment un souvenir assez marquant parce que c'est mon premier leash fall. Donc, leash fall, ça veut dire une chute dans la sécurité quand on est dans le vide en highline. Et je me dis, oh là, c'est pas pour moi ce truc-là. vraiment, ça fait flipper. Mais je l'essaye quand même une deuxième fois. Et là, pareil, je me remets la même. Donc, au bout de deux fois, je me dis de toute façon, là, je sais pas faire, je sais pas me lever. Ça me fait peur, c'est pas ce que je recherche. Moi, j'aime bien passer des moments zen sur le fil et être concentré, mais j'aime pas me faire peur. Et là, à ce moment-là, je me dis bon bah le soir en rentrant, je me dis c'était sympa, mais je crois que je suis vraiment pas fait pour le vide, ça me fait peur, j'arriverai jamais à dompter ça. Et puis voilà, c'est comme ça et puis j'en referai sûrement jamais. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais dans la tête à ce moment-là.
Ouais, un petit peu, peut-être un petit peu vexé aussi et un peu déçu ouais par ta performance. Et du coup, comment est-ce que tu as été amené à en refaire? Est-ce que le lendemain tu t'es levé et tu t'es dit attends, j'ai déprimé hier, il est hors de question que je reste sur un échec. Comment ça a été, quoi ton processus psychologique pour revenir à la discipline?
Bah du coup, à ce moment-là, pour moi c'était vraiment deux choses différentes, la slackline au ras du sol et la highline. Quand on commence la slackline au ras du sol, on croit vraiment que marcher dans le vide, ça va être simple, ça va être tranquille. Et en fait, c'est vraiment rien à voir. On n'a pas de repère visuel. Au-delà du fait d'avoir peur du vide, comme on n'a rien sous les pieds, on se repère vraiment différemment. Et pour le cerveau, en fait, c'est vraiment quelque chose à réapprendre complètement. Et donc le lendemain, je me dis, je retourne à l'école hein, et je me dis j'y crois pas trop. Enfin, la slack c'est bien, mais dans le vide, c'est pas mon truc. Et puis, okay. Finalement, en étant tellement passionné, en faisant tous les soirs encore, parce que ça m'empêchait pas de continuer à en faire au ras du sol. Ah. Et ben, tout doucement, j'ai commencé à avoir je me suis déjà entraîné à me lever comme il faut dans le vide, en fait, enfin, à me lever, à faire un départ assis, ce que j'avais pas appris à faire de la bonne manière au début, à faire un départ, en fait, où on est dans le contrôle complet, pour se lever sereinement. Et pouvoir le faire dans le vide, donc ça, je m'entraîne quand même pour ça. Et tout doucement, en étant très très bon au ras du sol, parce que à ce moment-là aussi j'avais acheté une sangle beaucoup plus grande qui faisait 150 mètres de long et qui me permettait d'aller m'entraîner sur beaucoup plus long.
Ok, d'accord.
Et donc comme j'ai ce matos-là, j'en fais tellement, je deviens très vite très très fort au ras du sol et je reviens après dans le vide les fois suivantes avec un énorme bagage technique en étant vraiment sûr de moi. Quoi. En fait, en gros, j'ai gagné une énorme confiance en moi. Et du coup, j'arrive petit à petit à dompter le vide et à passer par-dessus cette peur qui me paralysait complètement. Et pour ça, donc, j'utilise plusieurs techniques. La première et la plus importante qui m'a vraiment aidé le plus, ça a été de me mettre de la musique dans les oreilles, en fait. Et le fait d'avoir des écouteurs avec une musique, ça me met dans une bulle, en fait. Ça m'isole de tout ce qu'il y a autour, du vide, de mes peurs, en fait. Quand on est dans le vide, en fait, il y a une atmosphère du vide. En fait, c'est pas que visuel. Il y a un son. Il y a vraiment quelque chose. Quoi. On sent qu'on est qu'on est tout seul sur un petit bout de fil, et le fait de se mettre de la musique dans les oreilles, ça crée une bulle, et en plus, ça met un élan de motivation. Ça, je compare un peu souvent ça avec, par exemple, il pleut dehors, on aimerait bien aller courir, mais il fait vraiment un temps pourri, et là, on se met la musique dans les oreilles, on a une super musique qui nous plaît, et paf, on va courir, on est sous la pluie, mais on est heureux parce qu'on est dans notre bulle. Et ben, c'est un peu pareil. Dans le vide, là, je me mets ma musique, et en fait, ça me coupe tout le reste, et du coup, je peux essayer plein de fois et retomber, mais je m'en fous parce que je suis ultra motivé. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de réussir à faire mes premiers pas dans le vide, et puis ensuite mes premières traversées.
Ok. Et par curiosité, t'écoutais quoi, du coup, durant ces premiers essais?
Alors, à cette époque-là, faut que je me souvienne un peu de mes playlists à l'époque, mais c'était, il y avait un petit peu de tout. J'ai des souvenirs comme ça avec du Manu Chao, avec du Métronomie, là, de la pop, okay, de l'époque, avec, après, en fait, j'ai des playlists qui ont toujours été un peu larges. Il y a du vieux rock, il y a de la pop, il y a un peu de tout, et il suffisait juste, en fait, de trouver une musique qui me rappelait aussi les sensations que j'avais au sol, en fait, et pour revenir dans, il n'y a pas de souci, tu sais faire, tu l'as déjà fait plein de fois chez toi, et mettre dans une atmosphère aussi qui me rappelle, en fait, une zone un peu de confort, en fait. L'idée, c'était d'aller transposer, ouais, ce que j'avais vécu au sol dans le vide, grâce à la, okay, musique. Et...
Parce que ouais, la différence entre les deux, tu l'as dit, c'est vraiment un sentiment de peur du vide et de perte de repère. D'ailleurs, je suis un peu curieux vis-à-vis de la musique, parce que il me semble, alors dis-moi si je me trompe, mais que dans l'équilibre, l'oreille interne joue énormément. Est-ce que le fait d'écouter de la musique, ça peut perturber l'oreille interne, ou au contraire, est-ce que ça peut la stabiliser, ou est-ce que je dis n'importe quoi?
Alors, moi, c'est vrai qu'on fait souvent cette réflexion-là. Donc l'oreille interne, c'est un organe qui derrière l'oreille, qui peut nous permettre d'écouter, mais qui est quand même différent, qui est là pour stabiliser, on va dire, la tête dans l'espace, et pour donner des informations au cerveau sur la position du corps et de la tête au niveau des accélérations et des positions qu'elle a. Et en fait, le fait de mettre de la musique dans les oreilles, ça va pas du tout influencer sa capacité à bien fonctionner, en fait. En gros, c'est pas parce qu'on a les oreilles bouchées que l'oreille interne ne fonctionne pas. Ça va pas, okay, fonctionner avec les sons, l'oreille interne. Alors même si, okay, il y a forcément une partie des informations qui va être prise, parce qu'en fait l'équilibre, il y a l'oreille interne qui est l'organe principal, qui est beaucoup d'informations, mais il y a d'autres informations qui viennent. Et les plus grosses informations qui sont captées, c'est tout le reste du corps, en fait. C'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est tous les connexions nerveuses qui vont se passer sur la peau des mains, la peau des pieds, les tendons, les articulations. Tout ça, en fait, va donner des informations au cerveau sur la position du corps. Et en fait, en gros, le principal des infos, le fait de mettre de la musique, ça, en tout cas pour moi, hein, ça m'empêche pas du tout d'avoir un bon équilibre.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres sens qui sont sollicités à part justement l'oreille interne? Quand je parle de sens, c'est peut-être pas forcément les cinq sens tels qu'on les connaît, mais peut-être des sens un peu différents. Il me semble que tu en avais parlé dans une interview, notamment pour les gens qui le faisaient avec les yeux bandés. Et ouais, tu parlais un petit peu de ces sens-là, et je suis un petit peu curieux de savoir quels sont les sens que tu sollicites du coup quand tu montes sur une ligne.
Alors en fait, quand on est en recherche d'équilibre sur quelque chose qui est instable comme une highline, et en plus dans un milieu un peu stressant comme le vide, on va décupler un peu tous nos sens pour capter énormément d'infos et, ouais, essayer d'être le. En fait, moi en tout cas, ça me rend assez sensible à tout ce qui est autour pour pouvoir gérer au mieux possible. Et du coup, la vue est quand on le fait au ras du sol, c'est une information hyper importante. C'est ça qui nous permet d'être stable par rapport au sol. Quand on est dans le vide, okay, la vision, elle est plus secondaire parce que on n'a pas de repère autour. Alors, il y a un entraînement qui va se faire moi, je me suis énormément entraîné les yeux fermés pour du coup compenser cette absence de repère visuel. Alors bien sûr, les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile, que ce soit au sol ou dans le vide. Ça change vraiment beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas de le faire. En fait, quand on a les yeux fermés, en gros, on est un peu plus brouillon, on a besoin de bouger plus les bras pour qu'il y ait plus de retour d'informations. On est un peu moins précis, on va dire, on va faire plus de micro-erreurs. Mais par contre, le fait de fermer les yeux, et ben du coup, on va voyager complètement différemment et se concentrer beaucoup plus sur les autres sens et sur ce qui se passe en fait à l'intérieur. Parce que quand on voit plus, quand on voit plus rien, mais qu'on est en plein vide, et ben on a quand même tous les sons qui sont autour et on a tout ce qui se passe aussi à l'intérieur du corps. On va être beaucoup plus concentré sur les appuis au niveau des pieds, sur les sensations, sur toutes les articulations, les épaules, les genoux. En fait,
Tu fermes une source d'information qui est la vue et du coup tu décuples toutes les autres sources d'information qui peuvent être plus musculaires, nerveuses, tendineuses et tout ce qui peut toucher un petit peu à vraiment ce que tu ressens à l'intérieur, quoi.
Si voilà, c'est exactement ça. Et en fait, toutes ces infos là, quand on a les yeux ouverts, c'est pas qu'on les ressent pas, mais c'est elles sont moins conscientes en fait. Quand on va fermer les yeux, et ben l'attention. Parce que l'attention, c'est quelque chose qui se fait sur l'extérieur, mais on va recentrer l'attention sur ses propres sensations. Et c'est tout des choses qui étaient dans l'inconscient, parce que le corps, il gérait très bien de lui-même sans qu'on y fasse gaffe, qu'on va ressentir. Et c'est hyper intéressant parce que on apprend finalement en fait à se connaître et à voir ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui s'est toujours passé depuis tout le temps, mais auquel on n'avait pas forcément prêté attention.
D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Moi, je suis vraiment impressionné par ce que tu fais et ta capacité à te mettre dans ta bulle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu utilises toi pour travailler vraiment ta concentration, peut-être plus sans travailler tous les sens, mais qu'est-ce que tu fais avant de faire une longue traversée? Je pense que bon, on parlera juste après de tes exploits et des performances que tu as faites, mais à quoi tu penses, peut-être, je sais pas, la semaine avant, le jour avant, l'heure avant, comment est-ce que tu prépares justement une longue traversée de Highline?
Alors en fait, moi, à la base, j'avais aucune technique de préparation, aucune habitude. J'essayais de m'éloigner le plus possible de toutes ces habitudes. À une époque même où j'écoutais beaucoup de musique sur les traversées, je me suis obligé à le faire sans, pour pas être dépendant de ça. Et donc en fait, alors il y a deux choses que je vais un peu bien différencier. Moi, j'ai aucune avant de monter sur une ligne, je me prépare. Enfin, je m'appelle un petit peu, mais je me calme quelques secondes. Mais je peux vraiment enchaîner directement, et c'est vraiment sur la ligne que je vais me concentrer et rentrer dans la traversée. Par contre, il y a quelque chose que j'utilise depuis quelques années maintenant, grâce à un conseil que m'avait donné ma mère, c'est la visualisation. J'arrive jamais à le sortir
d'un coup, ce mot.
Et donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise pour la Highline et pour tout, en fait, pour toutes les choses que j'ai envie un peu de réaliser. C'est par exemple, avant une traversée stressante, pour prendre un exemple, par exemple, la traversée sur la Tour Eiffel, à Paris en 2017 pour le Téléthon, et ben je savais que c'était un moment qui allait être très difficile, très stressant. Et plusieurs soirs avant, au moment où j'ai su que ça allait vraiment se faire, avant de m'endormir en fait le soir, et ben je me projetais dans cette traversée et j'imaginais que tout se passait bien, mais je l'imaginais de façon très émotionnelle en fait. J'imaginais le bonheur que je ressentirais quand ça sera fini, que tout se passe bien, sans forcément aller dans le micro détail de comment ça va se passer précisément, parce que ça, je suis très conscient que j'en sais rien et qu'il faudra que je sois capable de m'adapter à toutes les éventualités, parce qu'on peut jamais, enfin, les choses ne se passent jamais comme on l'a imaginé de toute façon. Mais par contre, c'est vraiment une technique que j'utilise régulièrement. J'imagine vraiment le bonheur que tout se passe bien, que tout découle bien et qu'à la fin, tout s'est réalisé. Et ça, en fait, ça marche aussi des fois pour une conférence que j'ai à faire qui est un peu stressante. Et ben, je me projette un peu avant en imaginant ça. Ça, c'est une technique que j'utilise régulièrement, en fait, ça, c'est un truc. En gros, moi, j'aime bien toutes ces choses-là, les capter de personnes réelles. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup chercher dans des bouquins des techniques comme ça. je laisse un peu les choses venir comme elles doivent venir. Et ça, c'est ma mère qui m'a dit ça une fois. Ma mère a fait beaucoup de recherches sur ces choses-là. Elle m'a dit, c'était ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé et qui m'a beaucoup aidé, je crois, pour plein de choses différentes.
Ok. Et tu n'essayes pas du tout de visualiser des embûches ou justement des imprévus, parce que c'est un sujet qui me passionne, la visualisation. J'en fais de plus en plus moi aussi, même tu vois, comme tu l'as dit, hein, pas forcément pour du sport, mais aussi pour des tâches qui peuvent être professionnelles ou même un petit peu stressantes. Et une des choses justement que j'avais vu, c'était aussi de faire de la visualisation où tout se passe pas exactement comme prévu, tu vois, et par exemple en plein milieu de ta visualisation, tu vas imaginer une grosse embûche, ouais, tu vois, ou un gros imprévu. Par exemple, je sais pas, toi, t'es en train de traverser la Tour Eiffel et là il y a un hélicoptère qui passe, t'étais pas au courant, ça fait énormément de bruit. T'essayes pas du tout d'anticiper ce genre de choses qui pourraient troubler ta concentration.
Alors en fait, c'est vraiment. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans la partie, c'est pour ça que je dis je visualise pas. En fait, il faut faire la différence entre visualiser et idéaliser. Et du coup, comme ces options, en fait, je pense que ça, je le fais un petit peu inconsciemment, mais je pense que je peux pas non plus imaginer toutes les, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez négatif à aller imaginer tous les scénarios négatifs qu'il pourrait avoir, mais c'est sûr que je reste conscient du fait que les choses ne vont pas se. En fait, c'est pas parce que j'imagine, je vais pas forcément, je pense, l'imaginer ce mauvais exemple, même si ça pourrait être un moyen de s'y préparer, que ce soit pour un hélico ou pour autre chose, n'importe quelle situation. Mais je pense que moi, je me concentre vraiment sur l'essentiel et sur le. En fait, ces séances de visualisation que je fais, elles sont quand même relativement simples. C'est pas quelque chose que je vais pousser à l'extrême. C'est quelque chose que je fais de manière un peu juste avant de m'endormir, dans le moment où je suis un peu zen, et je reste vraiment sur du positif en fait. Et j'y vais pas du tout chercher à aller penser à tout ce qui pourrait mal se passer, parce que je me dis aussi qu'en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer, c'est peut-être comme ça qu'il va arriver. En fait, même si je suis conscient de, même si je prépare tout pour pas que ça arrive, ces choses négatives, et que je serais peut-être capable de m'y adapter au moment où elles arriveront. C'est pas quelque chose que je vais mettre dans les choses éventuelles. Je vais rester vraiment moi sur quelque chose de très léger et lié aux émotions pour que ça arrive vraiment. Et après, par contre, cette visualisation, le jour où je suis sur la traversée, là, par contre, il faut complètement arrêter de se projeter et il faut être 100% dans l'instant présent. Et ça, c'est hyper important, parce que moi, j'ai déjà vécu complètement sur une ligne. J'étais au milieu d'une traversée et je me remettais à faire les mêmes exercices de visualisation que j'avais fait les soirs d'avant. Et en fait, ça marche pas du tout, parce que quand t'es au milieu d'une ligne, que t'es en équilibre et que tu dois te servir de tout ton corps et que t'imagines que t'arrives au bout et que c'est fait et que c'est pas fait du tout, en fait. Là, il y a un gros danger. J'ai toujours pas mal de me mettre à pleurer quasiment, en fait, au milieu d'une traversée, parce que j'imaginais que c'était fait. Et là, je me dis, attends, là, il faut que tu ailles au bout, et c'est pas fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois et que je pense que je revivrai, parce que quand on est dessus et qu'on y est vraiment, et que ça se passe un peu comme on l'a imaginé, des fois, on peut être tellement pris par les émotions que du coup, ça nous fait sortir du moment présent, et ça peut même nous faire tomber, quoi. Donc, il faut vraiment rester présent à ce moment-là.
Waouh, attends, mais c'est incroyable ce que tu dis. Donc ce que tu racontes, c'est que ça t'est déjà arrivé d'avoir une espèce de décharge émotionnelle en plein milieu de ta performance et de devoir te reconcentrer pour terminer, quoi.
Ouais, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Je pense au moins deux exemples. Ça m'est arrivé à l'île de la Réunion quand j'ai fait mon premier record du monde en highline. Ça, c'était en 2015. C'est... Et en plus, je l'ai raconté dans un film, donc je pense que c'est pas un truc que j'invente maintenant, parce que je l'ai raconté à l'époque.
C'était 1 km, c'est ça, non?
Non, à l'époque, c'était 403 mètres. C'était sur l'île de la Réunion, pas loin du volcan. C'était le premier, le 1 km, c'était un an après.
Et, un an après,
Donc cette traversée-là, à un moment au milieu, ça se passait tellement bien. Il y avait les copains qui regardaient à côté, tout ça.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
J'étais tellement heureux d'être là, en fait, que bah, j'ai des larmes qui ont coulé. Hein. Vraiment, j'ai une grosse décharge émotionnelle. J'étais vraiment une sensation de plénitude, quoi, d'être heureux d'être là. Et, ouais. Et en fait, tellement pris à, enfin, ouais, j'étais tellement dans les émotions qu'à un moment, je me suis dit, attends, non, mais là, il faut quand même que tu te ressaisisses. Et voilà, c'est génial ce moment-là, mais il va être beaucoup moins génial si tu tombes à cause de ça. Et donc, il faut que tu ailles au bout et il faudra faire sortir ces émotions quand tu auras traversé la ligne et pas maintenant. Et ça m'est arrivé à ce moment-là, et ça m'est arrivé aussi sur la traversée à la Tour Eiffel, qui était très très stressante et très difficile. C'était l'époque ouais. de la mort de Johnny Hallyday. J'entendais les chants. En fait, à ce moment-là, j'entendais les gens qui chantaient pour Johnny sur les Champs-Élysées. Et moi, j'étais au-dessus de. J'étais entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, au-dessus de la Seine. Et là, pareil, je me disais, ouais, c'est fou, quoi. Je suis au-dessus de Paris. C'est complètement irréel. Enfin, c'est un truc que je pouvais même pas l'imaginer. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Et là, pareil, j'allais me mettre à. Enfin, j'étais pas loin de pleurer, quoi. Et je me suis dit, attends, t'es en direct, t'es sur France Télévisions, là, il faut que t'ailles chez vous. Et voilà, ça, c'est deux exemples un peu précis là-dessus.
C'était pour le Téléthon, il me semble. T'avais dit, d'ailleurs, après coup, que c'était sûrement une des traversées les plus dures à préparer parce que t'es en direct, on te dit de partir à une heure précise, t'as qu'un seul essai. Tu peux nous raconter un petit peu les conditions de cette traversée-là, parce que je pense que beaucoup de Français l'ont vu et je pense que ça peut les intéresser d'avoir un petit peu les coulisses et ce qu'on n'a pas forcément vu à la télé et on n'était pas forcément dans ta tête non plus, quoi.
Alors oui, c'est vrai que cette traversée, c'était je pense que c'est la plus emblématique que j'ai pu faire. Ça restera, enfin, faire une traversée sur la Tour Eiffel, c'est complètement irréel. Hein. J'avais déjà osé l'imaginer, mais j'avais jamais c'est même plus qu'un rêve, quoi. C'est le fait d'avoir la chance de faire ça, c'était assez dingue. Et donc, comment ça s'est passé, bon, après je vais pas faire toute l'histoire parce que sinon moi t'as peut-être déjà remarqué que je vais vite m'éparpiller. En tout cas,
ah, mais vas-y, j'adore, je me régale.
Donc cette traversée, donc c'était en 2017. L'émission donc du Téléthon a été intéressée par un exploit sur un fil au départ de la Tour Eiffel. Il trouvait l'idée hyper belle. C'était un record du monde urbain. Moi, les records du monde urbain, pas urbain, c'est vrai que c'est un truc qui me dépasse un petit peu, mais c'est un peu de la communication. En tout cas, c'était une très très belle ligne et ça leur a plu. Et donc, on s'est lancé dans ce projet-là, donc qui était de mettre une highline entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Ça faisait 670 mètres de long. Donc on partait, la ligne elle partait de la Tour Eiffel pour aller jusqu'à une grue qui était entre les deux bâtiments du Trocadéro. Et ce projet-là, il s'est monté assez, on va dire, il a commencé à se concrétiser 6 mois avant, mais c'est des projets qui sont hyper hyper complexes à monter pour des raisons administratives. Hein. Parce que il faut énormément de personnes d'accord pour faire ça. Ça va commencer au début simplement par la mairie de Paris, par la Tour Eiffel, le Trocadéro. Et une fois que tous ces gens-là sont OK, il faut réussir à convaincre la préfecture. Il y a vraiment énormément de choses. Il faut être hyper carré. Et donc, c'est un projet qui, on va dire, 3 mois avant, il y a eu énormément de rebondissements. C'était, on le fait, ça va le faire, on le fait pas, c'est complètement mort, il n'y a pas de moyen que ça le fasse. Parce que y a des gens qui veulent pas. En fait, il y a des tonnes d'autorisations à demander à plein de gens. Et si une seule personne dit non, eh ben, tout le projet tombe à l'eau.
C'est un domino, effet domino. Si t'as une personne qui tombe, c'est fini, quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut que tous les feux soient au vert. S'il y a un feu qui est au rouge, ça marche pas. Et donc, moi, je compare souvent ces projets-là, les projets en ville et les projets en montagne. C'est pareil aussi pour le dernier projet que j'ai fait récemment à la Défense. En fait, quand on est en montagne, on va faire une grosse expédition, ça va être difficile, il va falloir amener beaucoup de moyens, on a des pierres qui peuvent nous tomber dessus, on a toute une aventure qui est collective avec plein de copains, et à la fin on met la ligne, il y a une traversée qui se fait. Et ben là en ville, cette aventure, elle commence bien avant, avec toute la partie autorisation, et une fois qu'on est sur place le jour J, que y a la veille ou l'avant-veille, on nous a dit c'est mort parce que finalement ça le fait pas, parce que par exemple Johnny Hallyday vient de mourir, et que tout le barriérage qui était prévu par la préfecture au niveau du secteur où on était sur la Tour Eiffel est tout décalé pour partir sur les Champs-Élysées pour pas qu'il y ait d'incident par rapport aux manifestations de la mort de Johnny. Tout est remis en question tout le temps, et le jour où on installe cette highline, donc on le fait de nuit, enfin on commence à le faire le jeudi de jour, et la partie vraiment installation, elle se fait de nuit. Et donc là, après une énorme entre guillemets bataille administrative, beaucoup de temps passé là-dessus, on arrive finalement dans le concret de l'installation. Et donc ce qui est important sur ces traversées, ce qui est hyper important et qu'on voit pas assez souvent, parce que les choses sont faites comme ça, les médias sont faits comme ça, et les gens demandent comme ça, souvent on voit une seule personne qui traverse une ligne, qui fait un projet, et en fait derrière c'est jamais une seule personne, c'est toujours une équipe, un collectif et plein de compétences différentes pour arriver à ce truc là et donc sur cette traversée, le collectif, l'équipe, c'est l'équipe SDD Cycline, c'est une bande de copains avec qui j'ai fait toutes mes traversées un peu emblématiques de quelques années. Donc c'est des gars qui sont aussi pratiquants de la highline, et le souci, la difficulté qui est difficile à gérer pour moi et pour eux, c'est que sur cette traversée il va y avoir une seule personne qui va être mise en avant, il va y avoir un seul mec qui va faire la traversée, alors que dans l'équipe qu'on est, il y en a 5 ou au moins 4 qui sont capables de le faire, en fait, cette traversée, de la réaliser concrètement. Et dans les 4, pourquoi moi je suis choisi? Il y a plusieurs raisons, parce que moi je suis connu depuis longtemps, que j'ai fait plein de records d'affilée, donc que j'ai été pas mal médiatisé, parce que je gère pas mal la pression liée à ça, aux médias. Il y a plein de choses qui font que c'est moi qui suis choisi pour le faire, parce que je suis beaucoup impliqué dans le projet, que j'ai fait les préparations et tout ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui s'est pas forcément vu, mais qui est très dur à gérer, parce que là, on dit, les copains, on va faire une grosse installe, et puis finalement, c'est Nathan qui va traverser. Et ouais, c'est lui qu'on va interviewer, et vous avez bossé pendant une nuit pour installer tout ça. Et donc ça, c'est une partie qui est assez dure, parce que il faut faire un beau projet, un gros projet comme on a l'habitude de faire, et sauf que à la fin il y en a qu'un qui traverse, et ça, c'est, voilà, ça c'était, ça faisait partie des choses un peu dans les coulisses qui sont dures à gérer, mais c'est très très bien géré. Parce que les gars, ils ont été super, et au moment où je traverse et je réussis à aller de l'autre côté, on se retrouve tous ensemble en bas et on se fait un énorme câlin. Donc en fait c'est vraiment une aventure collective de A à Z. Et au moment, moi, un de mes souvenirs les plus forts vraiment, hein, de toutes mes traversées, c'est le moment où je pose le dernier pied de cette traversée entre la Tour Eiffel et Trocadéro, où j'arrive de l'autre côté, où j'ai un gars qui est là pour gérer la sécu, qui a un copain avec qui on a monté tout le projet, que je vois ses yeux, ouais, qui me regardent, et qui pleure, et moi je pleure aussi. Vraiment, là, c'est le truc, c'est l'aboutissement. Et en fait, quand je pose ce dernier pas, je peux me remémorer en tout ce qui remonte, en fait, c'est les mois de préparation, les rebondissements, les galères la nuit pour installer, pour couper la route en plein milieu de Paris. Tout ce qui aurait pu faire que ça s'arrête et que ça marche jamais, quand je pose ce dernier pas, c'est vraiment, je concrétise tout ça, et ça aboutit à, souvent quand on voit à la télé, quand on voit en vidéo, on dit tiens, il a fini sa traversée, c'est génial, et pour moi c'est beaucoup plus que la traversée que je finis, en fait c'est l'achèvement d'un projet, des mois de travail, d'un rêve, en fait, et hyper collectif. Et en fait c'est ça qui est hyper fort, en fait, sur beaucoup de traversées comme ça, aller au bout, c'est pas aller au bout juste d'une traversée entre deux bâtiments de Paris, c'est aller au bout d'une énorme aventure collective, et que je partage avec beaucoup de gens. Et du coup c'est vraiment ça qui moi me plaît sur ces projets là
d'accord, ok, ouais. Écoute, en tout cas c'est passionnant. J'ai l'impression que c'est vraiment un sport d'équipe, quoi, finalement. Et t'as mentionné le fait que c'était plusieurs compétences différentes. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment ça se monte une ligne et quelles sont les compétences du coup qui sont nécessaires? J'ai cru comprendre qu'il fallait un drone et que c'était assez long quand même et beaucoup plus technique qu'on ne le croit.
Ah oui, c'est vrai, il y a toute une partie un petit peu très technique et qu'on a développée spécialement pour l'iLine. En fait, c'est moi, on me demande toujours, t'as une équipe pour installer avec toi? Et je dis non, c'est pas une équipe, c'est moi qui installe avec des gens, mais je fais clairement partie de l'installation de A à Z. Et en fait, on a développé des techniques qui viennent des cordistes, des grimpeurs, et on a pris un peu tout ça pour faire un truc nouveau, parce que installer une grande sangle entre deux points, ça a jamais été fait par personne. Et donc, pour envoyer la sangle d'un côté à l'autre, c'est vrai qu'on utilise un drone au début. Donc en fait, on a un drone qui vient tirer un fil de pêche. Ça, c'est une technique qu'on a développée quand les drones sont arrivés. En fait, les drones sont arrivés en même temps que les très grandes traversées. Ça tombait très bien parce que ça nous a simplifié la tâche pour beaucoup de choses. Donc en fait, là en plus c'est rigolo parce que je suis dans ma chambre à matos là et j'ai le drone qui est à côté de moi avec la bobine de fil de pêche. Donc on a un drone qui tire un fil très léger. Et qui part du point A au point B. Donc en ville, ça va être deux tours d'immeubles, de bâtiments. En montagne, ça va être deux sommets ou deux falaises. Donc il y en a un qui envoie le drone, l'autre en face, il reçoit le drone, il attrape le fil de pêche, et après s'en suit un va-et-vient en fait. Comme le drone peut pas tirer directement la sangle qui serait trop lourde, il tire un fil de pêche léger. Ce fil de pêche léger tire une cordelette un peu plus lourde. Cette cordelette un peu plus lourde tire une autre cordelette un peu plus lourde. Et à la fin, on envoie la sangle. Et donc, le drone nous permet vraiment d'aller très vite, de connecter le point A au point B, sans passer des heures à être en dessous dans la ville ou en dessous dans les montagnes. Des choses qu'on fait quand même des fois, parce que par exemple, à la Défense, on n'avait pas le droit d'utiliser de drone cette année. Donc, pour le Téléthon, j'ai fait une traversée entre deux tours de la Défense. Donc là, le plan d'installation, c'était de circuler dans les rues en dessous avec des petites cordelettes qu'on a connectées progressivement. Sur des toits intermédiaires, et donc ça, au lieu de prendre 10 minutes en drone, ça va nous prendre 6 heures de temps de la journée, parce que donc le drone, c'est vraiment une aide précieuse.
Ok, d'accord, ouais, je vois. Génial, ça c'est passionnant. On n'imagine jamais hein, tout le travail qu'il y a derrière ce genre de performance. Et du coup, depuis que toi t'as commencé à faire tes premiers records, t'as mentionné celui à La Réunion, t'es toujours avec la même équipe. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'historique de tes différentes performances? Tu m'as dit que il me semble que ton dernier record a été battu, mais tu as été quand même celui qui a repoussé les limites pendant plusieurs années, quoi.
Alors oui, c'est vrai que le record actuel de Highline, c'est plus moi qui l'ai, parce que c'est pas quelque chose qui, enfin, c'est depuis quelques temps. C'est un truc qui m'intéresse un petit peu moins. C'est pas dit que je refasse pas dans les années ou les mois qui viennent, mais c'est un truc que j'ai mis un peu de côté. Et donc moi, c'est vrai que le parcours que j'ai eu dans la Highline, c'est que je pense être la personne qui est là depuis le plus longtemps et qui a enchaîné un paquet de records du monde d'affilée. Donc pour faire un petit peu l'historique. Après, l'équipe de copains, elle a évolué, elle est quasiment toujours la même, c'est un peu fluctué. Là, c'est toute cette équipe-là. Il y en a beaucoup qui sont partis dans des sports comme le parapente, le base jump, donc on s'est un petit peu éparpillé, même si on se voit encore régulièrement, mais on fait un peu moins de projets ensemble qu'à une époque. Et donc, pour l'évolution, en 2015, j'ai fait ce premier record du monde à La Réunion, qui était 403 mètres. À l'époque, dans l'équipe, il n'y avait que moi qui était capable de faire cette traversée-là. Il n'y avait personne d'autre qui avait le niveau d'aller au bout de cette ligne de 403 mètres à La Réunion. Quelques mois après, j'ai fait une traversée en France qui était à Millau, qui était 470 mètres. Là, c'était à l'initiative de deux copains qui sont Théo Sanson et Danny Mensik. C'est surtout Danny d'ailleurs qui est un copain tchèque. Il savait en gros qu'on avait la sangle pour faire ça. Et lui, il savait qu'il avait le niveau pour faire ça. Et il voulait absolument concrétiser ce truc-là. Donc, on a fait une traversée un peu plus longue que celle de La Réunion. On a fait 470 mètres. Même c'était juste un mois après, en fait, à Millau. Et l'année suivante, avec Danny, donc qui est vraiment un super gars. Voilà, moi c'est mon eyeliner préféré, on va dire. C'est un gars que je vois pas très souvent, mais quand on est ensemble, à chaque fois c'est génial quand on fait des beaux projets. Et donc Danny, il avait en tête, il s'est dit, donc on avait amené le record du monde à 470 mètres. Il y avait des gars qui l'avaient repoussé jusqu'à un peu moins de 500 mètres. Le dernier, c'était un Suisse qui s'appelle Samuel Voleri, qui a fait d'autres records après d'ailleurs. Et donc avec Danny, on s'est dit, non, mais là, faut qu'on arrête de se grappiller 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Dany, il a dit, allez, on se met un kilomètre dans le
on va calmer tout le monde.
Voilà. On s'en fout, on y va, on met un kilomètre d'un coup. Et là, je dis, ouais, mais Dany, ouais, fou. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver ton truc, enfin, c'est sympa, mais au début, j'étais un peu réticent, puis lui, il était tellement motivé, tellement chaud, que bon, il m'a motivé avec lui. Et, ben, on est parti, c'est parti, on lance ça. Alors, on a trouvé, bah, finalement, c'était vraiment à l'époque où c'était un peu artisanal pour moi. On n'avait pas forcément de moyens. Donc là, on a réussi à trouver Red Bull qui nous avait filé un peu d'argent pour pouvoir payer le matos. On a
réussi à monter une vidéo d'ailleurs.
Voilà, il y a une vidéo qui avait été montée à cette époque. Et donc là, on va dans le sud de la France. Dany faisait ses études à Nice. Donc Dany est tchèque. Hein, il faisait ses études une année sur Nice et il a repéré un endroit qui s'appelle Aiglun. Et donc c'est deux falaises qui font 300 mètres de haut chacune. Sous ces 300 mètres de haute falaise, t'as encore 300 mètres de gorge pour aller sur une rivière. Donc, en gros, il y a 600 mètres de vide et ces falaises sont espacées d'un kilomètre. Donc, pour faire un peu en termes de proportion, c'est l'équivalent des traverser un peu les gorges du Verdon. C'est des énormes falaises, une belle rivière au milieu et qui sont espacées d'un kilomètre de long. Et quand on arrive sur place, c'est juste énorme, quoi. Moi, imaginez traverser là, enfin, on voit ça avec Dany et lui, il avait déjà été repéré, mais voilà, je me dis, mais c'est vraiment un truc de fou qu'on va faire là. Et il me motive vraiment pour ce projet parce qu'il est, voilà, il est vraiment chaud. Et du coup, moi, un mois avant le projet, eh ben, je gère toute la partie administrative. Et pour le lieu, ben, c'était l'aviation civile, avoir les autorisations de l'aviation parce qu'on est dans le domaine aérien. Donc ça, c'est une belle partie. Et aussi, il y avait une grosse partie avec l'Office national des forêts, donc l'ONF, et le lieu parce qu'il y avait un aigle qui nichait éventuellement dans la région. Et donc là, bah, j'ai des heures et des heures et des mails et des échanges par rapport à ça. Finalement, ça aboutit sur un oui général, on peut le faire. Et donc là, bah, on va installer cette ligne et on va réussir à traverser tous les deux cette ligne d'un kilomètre, alors que le record d'avant était à 500 mètres. Et on passe un peu sur une dimension encore nouvelle, parce que une traversée d'un kilomètre, ça a vraiment... En termes de visuel, ça n'a rien à voir avec une ligne de 500 mètres. On passe sur un truc complètement nouveau, quoi. C'est une ligne, quand on parle de la ligne, on voit même pas les gens qui sont au bout, on voit des tout petits points. Et c'est vraiment, voilà, complètement nouveau, quoi. On n'arrive même pas à imaginer que c'est faisable. Et moi, sur cette ligne, on fait un shifumi. En gros, on tire à pierre, papier, ciseaux la personne qui va aller devoir faire un réglage qui est assez complexe et assez épuisant sur la ligne. Et donc, c'est Dany qui perd, donc c'est lui qui y va. Et moi, j'ai la chance de pouvoir me lever en premier en étant en forme sur cette ligne. Et je vais faire un truc que dans le jardin, je la fais à vue, je la flash. C'est-à-dire que j'ai la chance de traverser la ligne au premier essai. C'est-à-dire qu'on met une ligne d'un kilomètre de long. Et la première fois que je me lève dessus, je vais jusqu'au bout et je m'assois de l'autre côté. Et pour moi, c'est une... Génial. C'est juste fou, quoi, parce que flasher une ligne comme ça, c'est dingue, et en plus c'est un gros soulagement, parce que le faire en une seule fois, ça veut dire que je l'ai fait une fois et j'ai pas besoin de m'embêter à recommencer et à me refaire peur, parce que là c'est une ligne qui est complètement terrifiante. C'est 600 mètres de haut, 1 km de long, des conditions pas faciles, du vent et une sangle un peu nouvelle, du matériel différent, léger, qui nous fait peur en fait, sur lequel on n'est pas habitué. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui fait que c'est... Enfin, moi, je fais cette traversée, c'est fou, quoi. Voilà, on concrétise là. Je pense qu'à l'époque, dans le milieu de la slackline, c'est ce qui a fait le plus de bruit, parce que bah, déjà pour le kilomètre et puis pour le fait qu'on ait doublé le record précédent. Et puis Dany, il réussit aussi le jour suivant et ou celui d'après, enfin parce qu'il y avait un jour de vent. Et donc, on réussit tous les deux ce projet-là. On partage ce truc et c'est, ouais, pour moi, c'est pour de toutes les traversées que j'ai pu faire en montagne, c'est celle la plus... Voilà, c'est le changement de dimension, quoi. C'était en 2016, en avril 2016. Donc c'était il y a 4 ans et on passe sur un truc complètement nouveau et c'était fou. Et puis après, dans cette lignée-là, on fait 1662 mètres en 2017. Plus avec Dany, mais avec les copains, du coup, avec qui j'étais à La Réunion, qui eux, entre-temps, ont pris un très bon niveau. Dans le groupe, on accueille deux nouveaux gars, qui sont Lucas Millard et Pablo Signoret. Et ces deux gars-là, qui un est étudiant en médecine et l'autre Pablo à l'époque était étudiant, je sais plus, je sais qu'il était étudiant ou alors en année sabbatique En tout cas, maintenant, il est étudiant à Aix-en-Provence. Ils sont très, très forts, très jeunes, et venus très forts en très peu de temps. Et c'est deux super copains hein, maintenant, et ça l'était aussi à l'époque. Et donc, tous les trois, on va réaliser cette traversée de plus d'un kilomètre six. Et donc, on fait le premier mile. On se dit, allez, on va faire le mile pour les Américains. C'est la longueur qui est parlante pour ouais. eux. Et donc, on traverse le cirque de Navacelles en juin 2017. Et c'est une traversée, en plus, pour moi, assez spéciale parce que je suis pas du tout entraîné. Mais vraiment pas du tout. C'est une époque où j'avais un petit peu, je m'étais mis au parapente, en fait, l'hiver d'avant. Et donc, je faisais que du parapente. J'avais pas trop ouais. un physique à pousser parce que bon, j'étais pas non plus en mauvaise santé, mais j'avais pris un peu de poids. J'étais pas affûté, quoi. J'étais pas en mode hyper sportif. Et finalement, je réussis à traverser, assez, beaucoup plus facilement que ce que j'avais imaginé. Et donc, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment ce qui me plaît, ces grandes traversées. C'est une traversée qui dure 1h15 à peu près pour nous trois. Et en plus, on le partage tous les trois. Bah, c'est l'aboutissement d'un projet énorme aussi, hyper complexe pour plein de, j'ai pas le temps de tout raconter, mais c'est vraiment, voilà, une belle traversée. Ce record, c'est mon dernier record. C'est notre dernier record avec cette équipe-là. Parce que quand on a fait cette traversée-là, on a vraiment mis beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup de travail, et vraiment à plusieurs. C'est un record que ça a été porté, ce projet, par un gars qui s'appelle Guillaume Barande, qui est de la région. Et là, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup encore d'aller repousser, d'aller refaire des records de distance pour des choses si compliquées? Et moi, en tout cas, à ce moment-là, je m'oriente plutôt vers des projets esthétiques comme ceux de la Tour Eiffel, par exemple, ou comme je suis parti aux Marquises récemment, plutôt des projets qui soient jolis plutôt que des records, ouais. même si ouais, ça exclut ouais. pas que je refasse des records. Et donc actuellement, le record, il est à tout juste 2 km, tout pile 2 km. Et okay. Il a été donc battu, voilà, le record, c'est 1662 mètres qui date de 2017. Moi, j'ai jamais refait le plus long depuis. Et il y a quelques projets qui feront éventuellement que je ferai le plus long plus tard. Et voilà, on a fait un peu l'historique des grandes traversées wow. que j'ai faites récemment.
Waouh, bon, en tout cas, écoute, félicitations, c'est juste impressionnant, je trouve, le fait que tu repousses les limites à chaque fois et que tu le fasses pas qu'à moitié. Et ça a l'air d'être une super belle aventure. Tu l'as dit, aujourd'hui, tu t'es tourné un petit peu plus vers les projets, sur des projets un petit peu différents. Tu m'as aussi expliqué qu'aujourd'hui tu pouvais en vivre. Et notamment, en faisant des spectacles, en faisant aussi des traversées un peu plus médiatisées. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît aussi, ou est-ce que tu le vois comme une nouvelle aventure, ou est-ce que c'est vraiment une façon de te dire ok, j'en vis? Parce que je pense que dans la slackline, il y a peut-être très très peu de mecs qui en vivent actuellement.
Alors ouais, c'est pour moi c'est juste complètement fou, hein, c'est génial. Des fois je me le remémore, je me dis, faut quand même que tu te rappelles que tu vis de ta passion et que t'as cette chance là. Donc moi je suis, en fait, ce que ça m'a apporté, la slackline, c'est vraiment d'être conscient du fait qu'on peut vivre de quelque chose qui nous plaît et que tout ce qu'on fait à fond et de manière si on s'investit dans quelque chose, on peut éventuellement en vivre. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance de faire quelque chose qui, à la base, ne laisse pas les gens indifférents. Quand on voit un mec sur un fil, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde. Et donc aujourd'hui, je suis super heureux de pouvoir en vivre, et j'en vis par plusieurs aspects. Et tout me plaît, en fait. C'est un peu le souci, c'est que j'arrive pas à me concentrer sur une seule chose. Mais c'est okay. ce qui est bien aussi. Hein. Mais admettons, si je voulais faire que du spectacle à 100%, je pourrais éventuellement le faire, mais ça me plairait pas. Je fais aussi des conférences pour des entreprises ou pour même des bibliothèques. Enfin, je fais des conférences qui vont être sur des thèmes différents, qui vont être la gestion du risque ou la peur ou l'innovation dans le risque. Enfin, il y a pas mal de, enfin, la prise de risque pour l'innovation. Il y a plein de choses à dire et qui vont plutôt être dans regarder comment j'ai pu faire les choses pour essayer d'ouvrir le regard, d'ouvrir l'esprit à différentes personnes sur ce qui est possible mm-hmm. de faire. Donc là, je m'éparpille un peu, mais il y a un peu trois axes qui me font en vivre aujourd'hui. Donc c'est la partie démonstration, qui va être, par exemple, faire une traversée dans un stade de foot pour l'ouverture d'un match. La partie démonstration, elle est proche de la partie spectacle, mais elle est différente. Il y a aussi la partie spectacle. Donc la partie spectacle, c'est comme une démo, mais il y aura une intention différente. C'est pas de montrer de la highline, c'est de montrer quelque chose de beau. Et finalement, que ce soit de la highline ou pas, on s'en fout un peu. L'idée, c'est de faire quelque chose d'esthétique. Et pour ce point-là, j'ai la chance de, je vais travailler avec un chorégraphe qui s'appelle Rachidou Ramdam, qui est le co-directeur du CCN2, donc du Centre chorégraphique de Grenoble avec Johan Bourgeois, que j'ai pu rencontrer l'an dernier. Et donc cet été, et pour l'année suivante et celle d'après, on a un projet ensemble. Il veut me faire intervenir dans un spectacle qui va monter. Et donc je vais vraiment découvrir le milieu du spectacle avec le fait de travailler avec d'autres gens, de travailler dans des théâtres. Et c'est vraiment un monde qui est différent, mais que j'ai hâte de découvrir. Donc il y a cette partie là, il y a la partie sponsoring qui est pas négligeable non plus, mais c'est vrai que moi je suis dans un milieu où il y a pas d'argent, hein. C'est pas les marques de Slackline qui vont me faire un salaire. Les sponsors que j'ai, c'est mon plus gros sponsor, c'est Exahome, c'est des gens qui vendent des maisons, donc c'est un groupe qui fait de la construction de maisons, qui est un des plus gros constructeurs de maisons en France. Et donc c'est des gens que j'ai rencontrés en faisant un séminaire pour une entreprise avec qui c'est passé très très bien humainement, et c'est génial parce que j'ai une super relation avec eux. Grâce à eux notamment, j'ai rencontré Mike Horn et j'ai passé beaucoup de temps avec Mike Horn récemment. On se voit sur plusieurs événements, et là en cette période de confinement par exemple, je leur ai fait des vidéos pour les collaborateurs. Enfin, il y a tout un, c'est vraiment une relation humaine qui s'est basée avec ces entreprises, et c'est des gens vraiment géniaux. Et donc voilà, j'ai un peu fait les trois parties. C'est la partie, on va dire, spectacle, démonstration, entreprise et sponsoring. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu vivre aujourd'hui.
Ok, d'accord. Tu dis un petit peu vivre parce que c'est pas encore la fortune des footballeurs, c'est ça?
Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai quand même la chance d'en vivre bien, disons que ça fait donc 4 ans que je fais que ça, et on va dire que mon chiffre d'affaires, pour parler concrètement, enfin je vais pas donner des chiffres, mais j'en vis vraiment de mieux en mieux chaque année. Gagne de plus en plus d'argent par rapport à ça chaque année, et bon là c'est un petit peu, j'ai plein de choses qui se sont annulées, qui devaient se passer dans ces mois avec le virus, ça va être zéro pendant 3 mois, mais j'ai la chance aussi, donc ça va faire un bon creux, mais j'ai la chance de faire un métier dans lequel je peux avoir un très gros pic après, et je peux gagner finalement beaucoup d'argent en peu de temps, en fait, en faisant des conférences, des démonstrations. Et donc non, aujourd'hui j'ai quand même la chance d'en vivre plutôt bien. Par contre, c'est vrai que je suis un truc qui est un peu précaire, parce que il faudrait pas que, voilà, je dirais que si je me fais mal, j'ai beaucoup moins de boulot. Après, toutes les conférences que je fais, ça marche quand même si je me fais mal, mais aujourd'hui j'en vis pleinement, et j'imagine pas une seconde faire autre chose, retourner. En fait, moi j'ai appris le génie mécanique à l'école, j'étais plutôt dans l'industrie, et j'imagine pas une seconde retourner dans l'industrie. J'en aurais pas besoin et j'en aurais pas envie.
Ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Bah tu vois, je vis un peu la même chose avec le podcast, tu vois. Aujourd'hui aujourd'hui je me régale, je commence à vraiment en vivre, en tirer un salaire. Je me verrais pas du tout revenir à travailler dans une agence web comme je faisais il y a 5 ans. Mais donc je comprends tout à fait ce que tu dis par là, quoi. Et puis sur le fait que tu fasses finalement que ça soit un ensemble de sources de revenus, c'est un peu tout s'imbrique et tout est un petit peu lié. Donc c'est sûr que il y a un petit peu de fragilité par rapport à ça, parce que si t'arrêtes de faire des vidéos, bah peut-être que les entreprises elles viendront moins de voir, et puis versus, enfin tu vois, et tu vois un petit peu après, ça peut, c'est sûr qu'il peut y avoir un cercle un petit peu, enfin c'est un cercle vertueux tant qu'il tourne bien, et bravo à toi. En tout cas c'est hyper impressionnant. D'ailleurs je fais une petite aparté, mais je sais pas ce que t'en penses toi, mais tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de, enfin je rencontre de plus en plus de sportifs qui sont pas dans des sports conventionnels ou des sports olympiques ou des sports de manière médiatisée, et en fait j'ai un peu l'impression qu'avec l'avènement de on va dire vraiment l'avènement du digital, et je dirais que c'est un tout, tu vois, entre l'arrivée de GoPro, de Red Bull, de YouTube, tu vois, un espèce de convo magique où t'as de plus en plus de sports un peu impressionnants qui arrivent sur la scène, que finalement ces sportifs-là qui ont très très bien compris le jeu un petit peu du sponsoring et de la vidéo et de l'image qu'ils peuvent en dégager. J'ai l'impression que c'est des sportifs qu'aujourd'hui qu'en vivent, quoi, et alors que c'était pas du tout le cas il y a 20 ans, quoi. Donc je sais pas, toi, quel est ton point de vue, et il y a d'autres slackliners qu'en vivent comme toi, tu fais un peu la différence.
Alors du coup, pour répondre à la première question, déjà par rapport à la façon dont on peut vivre aujourd'hui avec en gérant un peu le digital, c'est vrai que c'est une chance de fou, hein, qu'on a avec les réseaux sociaux et tout ça. Par contre, disons qu'il y a deux parties, parce que il y a 20 ans, on va dire que beaucoup moins de gens vivaient du sport, mais ceux qui en vivaient beaucoup mieux. Par exemple, on peut parler, je sais pas, des grimpeurs de l'époque qui avaient des énormes sponsors, des sponsors qui dégageaient des budgets énormes, ou le même pour avoir beaucoup, enfin un peu discuté avec les gens qui faisaient du freeride à l'époque ou du ski, ils avaient vraiment un sponsor, et puis là le sponsor débloquait toute l'année, t'avais plus à te soucier du reste, t'avais pas à t'embêter entre guillemets à être sur tous les réseaux sociaux, t'avais un budget et puis tu faisais ton truc. Et c'est vrai que maintenant, finalement, ça a permis d'ouvrir cette visibilité à beaucoup de monde, beaucoup de gens. Mais par contre, derrière, il y a aussi une certaine précarité qui s'est mise en place, parce que ça t'oblige à être hyper actif tout le temps, et à jamais t'arrêter. Et donc, c'est pas forcément évident, mais moi, je suis complètement là-dessus aussi. Hein. Mais c'est vrai que des fois, il y a une époque où, pour produire un film, par exemple, un film d'aventure, il y a une époque qui disait, mais c'est bon, on va faire ça. Tac, on met un gros billet sur la table et puis on va faire cet expé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que comme il y a du contenu partout, tout le temps, et que c'est difficile de faire quelque chose de qualitatif. Disons qu'on va dire que, des fois, le fait tout ce contenu énorme peut éventuellement baisser un peu la qualité de certaines choses, mais
bien sûr,
ça ouvre aussi ce contenu à beaucoup de gens, et finalement des fois à des gens qui ont bien plus de talent que des personnes qui étaient un peu médiatisées à l'époque. Donc en gros, moi c'est vrai que j'en vis aujourd'hui grâce à ça, hein, grâce à l'image, hein, clairement. Si j'ai fait des records, c'était pour repousser les limites, mais j'étais aussi conscient que c'était après aussi pour en vivre, parce que si j'étais dans les médias, c'est ça qui me permettait, enfin qui me permet toujours de travailler. Et donc ouais, moi je suis heureux de voir tous ces gens qui en vivent et tous ces talents qui ressortent, que ce soit dans les copains parapentistes qui font des super trucs comme Antoine Girard, qui je crois a fait la connexion entre nous, si je dis pas de bêtises.
Ouais, exactement, ouais.
Voilà, ce qui est fou, en fait, c'est que on se rend compte aussi qu'il y a plein de façons d'en vivre, finalement un peu toutes différentes les unes des autres, et que chacun fait un peu sa tambouille, et que chacun aussi fait ce qui lui plaît, et chacun est bon dans ce qui lui plaît. Donc et du coup là je rebondis sur ta deuxième question, sur moi je pense qu'aujourd'hui je suis le seul à en vivre de la façon dont j'en vis concrètement, avec ce mix de choses là, parce que c'est vrai que j'en vis aussi beaucoup en parlant de ce que je fais, et pas forcément que en faisant ce que je fais, que en m'entraînant, ouais, en faisant de la performance. Mais par contre, je peux pas aujourd'hui dire que je suis le seul à en vivre concrètement, parce qu'il y a des gars, il y a un Suisse par exemple qui s'appelle Lyle Grunberg, qui lui fait beaucoup de spectacles et qu'en vit. Il y a des gars qui font des traversées sur un bateau de croisière aussi qu'en vivent. Il y a d'autres gars en France qui en vivent quasiment en faisant à une époque, on partait super souvent en Chine. J'ai un copain qui est kiné, lui, il vivait avec la relation qu'on avait avec la Chine. Donc, en fait, on est plusieurs à en vivre à plein temps ou ponctuellement. Même si c'est vrai que moi, je suis le seul dans toute la bande de copains à avoir misé 100% là-dessus et avoir essayé d'en vivre complètement. Et c'est pour ça aussi que derrière, des fois, ils acceptent, quand j'ai traversé la Tour Eiffel, il y a entre guillemets que moi qui ai pris un peu le risque de faire que ça, parce que c'est aussi un risque, hein, de se lancer là-dedans, d'oublier tout le reste. Bien sûr. Et donc, je suis pas le seul à en vivre, mais je suis le seul à en vivre de la manière exacte dont j'en vis aujourd'hui. Mais j'espère que d'autres pourront en vivre plus tard. Et je suis persuadé En fait, je connais pas tout le monde. Il y a des Brésiliens apparemment qui en vivent aussi. Il y a des Instagrammeurs américains qui en vivent. Donc, on a chacun notre façon de fonctionner, qui est différente.
Ouais, bien sûr, ouais.
On fait pas tous autant.
Voilà, vous êtes tous finalement un peu des entrepreneurs et vous avez tous un petit peu votre façon de vous démarquer les uns les autres et de faire les choses bien. En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence. Je voulais pas spécialement y passer beaucoup de temps, mais c'est bien aussi de le mettre en lumière parce que c'est une des difficultés des sports un petit peu plus atypiques. Je sais pas comment on peut le définir, mais en tout cas c'est hyper sympa que de nous expliquer et de mettre la lumière là-dessus parce qu'on se rend pas compte du temps que ça prend, du boulot énorme que ça prend déjà de convaincre des entreprises et puis en plus d'entretenir la relation et de s'assurer que tout se passe bien. Donc félicitations pour tout ça. Juste avant de terminer, parce que j'ai pas envie de te retenir beaucoup plus longtemps, j'ai quelques questions pour la fin que je t'avais envoyé un petit peu avant. Tu peux y répondre d'une manière un peu du tac au tac ou tu peux les approfondir un petit peu plus. Est-ce que ça te dit d'y répondre maintenant?
Ouais, carrément.
Allez. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie?
Alors, une rencontre qui m'a changé la vie. En fait, c'est pas vraiment une rencontre. Là, je vais dire que c'est un peu bête, hein, mais c'est ma mère en fait. Je crois que c'est
génial. Ok.
Non, mais ouais, je vais me mettre avec Thalie en disant ça, mais c'est vraiment grâce à elle que je crois que ça rejoint une autre question qui est là-dedans. Mais il y a un moment, un tournant en fait, qui a fait que ça a changé ma vie complètement. C'est le jour où j'ai décidé d'essayer de faire que ça. On m'avait proposé un travail dans l'industrie, c'était un peu la sécurité. Bon, bah tu vas aller bosser dans une entreprise, et puis voilà, tu vas faire des horaires normaux et tu auras ton salaire tous les soirs, mais tu t'éclateras peut-être pas. Et à ce moment-là, on m'a proposé aussi, j'avais l'opportunité peut-être de pouvoir en vivre, et c'était hyper difficile. À un moment en cours, hein, ça s'est résumé en 3-4 jours, et ma mère, elle a été là pour me dire non, mais cette chance que t'as là aujourd'hui, saisis-la parce que tu l'auras pas plus tard. Et moi, j'étais terrorisé, vraiment, j'étais mal à ce moment-là, j'étais stressé, j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a dit, allez, vas-y, lance-toi. Et ça, en plus, c'est un moment précis, mais derrière, dans sa démarche de toujours, ça a été toujours de me faire confiance pour tout ce que je faisais. Et donc, en fait, c'est pas une rencontre, en fait, c'est une rencontre, parce qu'on s'est bien rencontré à un moment ou à un autre. Mais c'est elle qui m'a soutenu sur ce moment-là difficile. Alors, je dis ma mère, mais c'est mon père aussi, parce que... Voilà, à ce moment-là, c'est elle qui me l'a dit comme ça, mais c'est ma famille qui a vraiment été qui a été parfaite en fait, hein, parce que ils m'ont toujours accompagné dans tout ce que je faisais. Ils ont gommé un peu tous les avis négatifs qu'ils avaient de l'extérieur. C'était pas évident pour les grands-parents de dire bah qu'est-ce qu'il fait, il fait que ça, c'est pas normal, c'est pas un métier. Et eux, ils étaient là juste avec la bienveillance qu'ils avaient. Et voilà, c'est con, hein, on va dire, c'est pas le raconte avec mes parents qui, enfin, ça a changé ma vie concrètement. C'est sûr, concrètement, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, j'en serais pas là aujourd'hui.
Bah écoute, franchement c'est génial. Tu fais bien de rendre hommage à ta maman et je trouve que t'as eu une chance énorme parce que le nombre de parents, tu sais, qui sont trop inquiets pour leurs enfants et qui pensent qu'à la sécurité plutôt que de penser aux rêves. Voilà, ta mère et tes parents t'ont permis de vivre ton rêve, donc franchement merci de leur rendre hommage. C'est plutôt cool. On oublie trop souvent à quel point les parents impactent la vie des sportifs et même la vie des gens qui vivent leur rêve tout simplement.
Le seul mot en fait c'est confiance, en fait c'est juste que faire confiance. Ouais. Eux, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit Nathan, on te fait confiance, vas-y, on te fait confiance. Et ils m'ont dit, on te fait confiance parce que nous on t'a donné tout ce qu'on avait à te donner quand t'étais petit. Et maintenant, fais ce que tu veux, on te fait confiance. Et c'est ça qui prime, hein, que ce soit pour réaliser ses rêves ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste l'histoire de confiance qu'ils m'ont donnée. Et bah, c'est vrai que c'est...
Ok. Bon, bah, génial. Ça m'inspire d'autant plus que, comme je te disais, je suis papa depuis pas longtemps. Et du coup, j'ai envie de donner le meilleur possible à mon fils. Donc, je sais quoi lui donner, en tout cas, en priorité. Donc, c'est trop cool. Merci beaucoup. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Alors dans 10 ans, je sais rien en fait. Et c'est vrai que je peux vraiment pas y répondre à cette question parce que je peux y répondre de manière différente, mais je me suis jamais projeté nulle part. J'ai jamais été capable de me projeter en fait vraiment dans même à court terme, hein, quand quand j'étais à l'école, je savais pas ce que je voulais faire comme métier plus tard. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que de ne pas avoir besoin en fait de se projeter. Alors c'est sûr que ça peut être sécurisant et des fois c'est quand même pratique hein, de pouvoir se projeter. Mais moi, je suis vraiment sur un style de vie. Je pense que c'est ma façon de faire et qui m'a toujours réussi. C'est de, je sais pas ce que je ferai dans 3 ans même. Je sais que je ferai quelque chose qui me plaît, ça j'en suis certain. C'est con hein, parce que souvent il y a la question, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être heureux, et c'est une réponse à la con. Mais en fait, je pense que c'est le fondement du truc, c'est que t'as pas besoin de savoir ce que tu vas faire concrètement pour savoir que tu vas t'éclater. Et donc je sais que dans 10 ans je vais faire un truc qui me plaira, je sais que je serai bien dans ce que je ferai, je sais pas du tout ce que ça sera. J'espère que ça sera différent d'aujourd'hui, mais voilà, j'en ai aucune idée et c'est génial comme ça.
D'accord, ok. Bon bah génial, t'as raison de laisser libre recours à la vie. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Parce que j'ai l'impression que t'as affronté beaucoup de tes peurs entre le vide, celle de repousser les limites et celle aussi de te lancer à 100% dans cette activité. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des choses qui t'effraient?
Alors en fait, j'ai affronté beaucoup de mes peurs, mais en fait je dirais qu'il y a tout qui pourrait m'effrayer. En fait, je suis quelqu'un à la base qui est plutôt, enfin pas peureux, mais qui est plutôt prudent sur plein de choses. Je me jette pas sans avoir réfléchi un petit peu. Et là, des choses qui m'effraient, bah, par exemple, c'est d'avoir un enfant, ça fait peur. Mais par contre, je suis certain que je pourrais passer par-dessus cette peur, et j'ai appris avec la Highline que, et j'ai eu même le, enfin maintenant ça me plaît en fait d'aller vers des choses qui me font peur, parce que je vois que je peux trouver un plaisir génial à passer par-dessus cette peur et à faire des belles choses quand même. Donc en fait, concrètement, bon, ce qui me fait peur, c'est les araignées, ça c'est con, mais ça je sais pas si j'arrive à le changer.
Ok.
Mais en tout cas, je pense que tout ce qui est nouveau me fait peur, mais par contre, ça me fait peur, mais c'est pas pour ça que j'irai pas. Il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éloge de la peur, qui s'appelle Gérard Guerrier. J'ai la chance d'être sur la couverture de ce bouquin. J'ai découvert ça quand il est sorti, en plus. Je suis pas dans le bouquin, mais j'ai des copains qui sont dans le bouquin, mais je suis sur le bouquin. Et donc, ce bouquin Éloge de la peur, il raconte que la peur, elle est normale, elle est pas négative. Et ce qui est important, c'est qu'elle soit pas paralysante, qu'elle soit plutôt un moteur. Et donc, moi, il y a plein de choses qui peuvent me faire peur, mais c'est pas pour ça que je les ferai pas.
D'accord, ok. Bon, écoute, c'est génial. Merci pour la recommandation du bouquin. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un autre livre ou un film que tu as lu récemment et qui t'a particulièrement inspiré?
Alors tu vois, là je vais faire le mec qui a mal préparé les questions, parce que j'en avais plusieurs en tête. Et puis là, il y en a pas un qui me vient directement.
Non mais en plus on a cité plusieurs, parce que tu as cité les Flying Frenchist, tu viens de citer l'Éloge de la peur, donc
que j'ai apprécié en fait le plus récemment, parce qu'il y a plein de films que j'adore, notamment on va dire tous les Tarantino, mais plus pour le côté visuel et un peu voilà, qui je trouve génial. Mais le dernier film que j'ai vraiment aimé, c'est le film sur la vie de Johnny Cash, qui s'appelle en plus c'est rigolo parce que ça s'appelle I Walk the Line, je crois. Donc en plus, il y a un bon parallèle. Donc j'ai vu il y a pas longtemps, ça passait sur Arte, c'est le film donc qui raconte la vie de Johnny Cash. Et, et ça j'ai vraiment adoré, parce que j'ai bien aimé la façon dont en fait je connais Johnny Cash depuis longtemps, parce que ça fait partie des musiques que j'écoute souvent. Et, et là, de découvrir en fait la vie de ce gars-là, qui était pas forcément prédestiné à faire de la musique, qui était un gars qui venait d'un milieu plutôt pauvre, qui avait pas les moyens d'avoir accès à une maison de disques et tout ça, enfin qui s'est retrouvé là. Pour moi Johnny Cash c'était le mec qui enfin je veux dire c'était la star de cette époque-là, de cette musique-là, et en fait on voit qu'il est venu de rien du tout, et toute l'histoire autour de son père, de comment il a évolué, de ses addictions et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial, donc je dirais que c'est ce film sur la vie de Johnny Cash.
D'accord, ok, bah écoute, génial, je le regarderai, parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien, en tout cas dont j'aime bien la musique, donc j'irai regarder. Est-ce que t'avais un idole ou une idole quand t'étais plus jeune?
Alors quand je courais, j'étais fan de Kylian Jornet et je pense que je suis toujours fan de. Je suis toujours fan de ce gars-là, de sa simplicité, de son honnêteté aussi. C'est un gars qui est très introverti. Je me retrouve beaucoup sur certaines choses qu'il dit et qu'il a fait, et pas sur d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quand j'avais 15-16 ans et que je me mettais à courir, c'est le gars dont j'étais fan et c'est un gars que je suis toujours. Et j'aime bien sa façon d'être. Simple et toujours avec un côté un peu drôle. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire de la slack avec lui il y a un petit moment déjà, c'était super sympa.
Ok, d'accord, ok, génial. C'est vrai que oui, il a l'air naturel et simple comme personnage, donc c'est sûr qu'il donne très envie. Et ça amène un petit peu à la dernière question. Cette dernière question, c'est un passage de micro comme un passage de flambeau, et c'est savoir quel serait le prochain sportif que tu connais, que tu me recommandes d'aller interviewer.
Ouais, alors je voulais dire en rigolant Mike Horn, parce que j'ai passé du temps avec lui et que j'ai lu aucun de ses bouquins, mais j'ai adoré ce qu'il m'a dit et j'ai retenu beaucoup de phrases. Il m'a dit par exemple, tu réfléchis trop, et j'ai trouvé, voilà, ça fait partie des phrases que j'ai prises. Mais après, c'est pas très original. Il y a un gars que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, que je connais pas très très bien, mais que j'aimerais bien connaître plus, qui s'appelle Martin Kern. Alors, je sais pas si tu l'as déjà interviewé ou pas. Peut-être pas.
Non, du tout.
Donc, Martin Kern, c'est un gars qui est spécialiste de l'endurance, qui est très fort en trail, qui a fait un super résultat sur la dernière Diagonale des Fous, que j'ai rencontré sur un événement qui s'appelle le Trophée Mer et Montagne, qui mélange les marins et les montagnards, sur lequel d'ailleurs j'avais rencontré, Antoine qui fait du parapente, et donc Martin, voilà, c'est un gars que j'ai vraiment connaître plus, et du coup je lui passe le micro. Voilà, Martin Kern qui court énormément et qui est un mutant, une machine de l'endurance en course à pied, en ski de rando, et c'est des sports en plus que je pratique aussi et qui me fascinent, et du coup j'aimerais bien entendre raconter ce qu'il a à dire.
D'accord, ok. Bon, écoute Nathan, c'était un énorme plaisir de discuter avec toi. Merci pour toutes ces recommandations, ces livres, ces histoires, c'est tous ces conseils aussi de visualisation. Merci parce que tu t'es livré à 100%, et moi j'ai passé un super moment, donc j'ai pas un seul doute sur le fait que les auditeurs aussi, et donc voilà, je tenais à te remercier pour ce petit mot de la fin, parce que t'avais l'air super cool quand on avait discuté un petit peu par message interposé, et écoute, j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi d'ailleurs, et voilà, ça clôture un petit peu cette interview. Merci Nathan.
Salut, merci beaucoup, merci à toi, c'était super, moi aussi je me suis éclaté, ouais. Merci, et continue de faire ce que tu fais.
Ça marche, merci beaucoup, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.